Avoir raison avec Robespierre. Cette phrase, il faut vouloir et pouvoir la prononcer. L'historien Marc Bloch nous avait mis en garde dans son ouvrage posthume « Apologie pour l'histoire », Robespierriste, anti-Robespierriste, nous vous crions grâce, par pitié, dites-nous simplement quel fut Robespierre. 80 ans après ce texte, cette saine exhortation n'est toujours pas d'actualité car la figure de Robespierre nous renvoie à l'incarnation d'un pouvoir s'étonnant lui-même d'être là, nourri de culture classique et de philosophes qui lui étaient contemporains, renversant la royauté au nom d'un peuple abstrait, d'un pouvoir, disait-on, de jeunes hommes brillants, ambitieux et sans sommeil, inventant les outils de la République, et de femmes qui tentèrent de gagner des droits mais qui le plus souvent restèrent à la porte des réformes en cours. Un pouvoir qui parlait au nom du peuple et qui voulait, comme le dit Robespierre à la tribune de la Convention, le 17 Pluvios en deux, substituer dans notre pays la morale à l'égoïsme, la probité à l'honneur, la grandeur de l'homme à la petitesse des grands, un peuple magnanime, puissant, heureux, à un peuple aimable, frivole et misérable, c'est-à-dire toutes les vertus et tous les miracles de la République, à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. Mais quel est ce peuple dont Maximilien de Robespierre se fit à la fois le porte-parole et l'incarnation? C'est la question que nous poserons à Sophie Vaniche, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Révolution française et autrice de La longue patience du peuple.
Ce que je veux, c'est offrir des conditions de vie normales à 80% des gens. C'est tout ce que je veux.
Ce n'est pas tout ce que tu veux. Il n'est pas bon que les mêmes hommes gouvernent trop longtemps.
Tu rêves du pouvoir ?
Il n'est pas en rêver. Je l'ai. Le pouvoir, je l'ai, le vrai, le seul pouvoir, la rue. Parce que moi, la rue, je la comprends et elle me comprend. N'oublie jamais ça, n'oublie jamais.
Moi, je ne l'oublie pas. Toi, n'oublie pas de ton côté que pour faire enfin le bonheur de la rue, je ne reculerai devant rien.
Tu veux faire le bonheur de la rue ? Et tu ne sais même pas ce que c'est que le peuple ? Qu'est-ce que tu connais du peuple ? Rien ! Regarde-toi ! Tu bois pas de vin, t'as les cheveux poudrés. À la vue d'une épée, tu t'évanouis. Et pareil, t'as jamais baisé une femme, alors ? Au nom de qui tu parles ? Tu veux faire le bonheur des hommes et t'es même pas un homme ! Ah !
Un extrait du Danton réalisé par Andrei Vajda, un tête-à-tête entre Danton, incarné par Gérard Depardieu, et Robespierre, incarné par Wojtek Psoniak. Bonjour à vous, Sophie Vaniche.
Bonjour.
Le peuple, c'est le sujet d'un de vos grands livres, donc La longue patience du peuple pendant la Révolution française. Vous avez travaillé sur cette figure à la fois de Robespierre, des robespierristes, de tous les révolutionnaires, et cette question de faire monter le peuple là où il n'existait pas auparavant, c'est-à-dire un pays de sujets qui devient un pays donc de personnes conscientes construisant la République. Qu'est-ce que l'on peut dire justement sur la façon dont Robespierre parle au nom du peuple? Pourquoi se considère-t-il justement comme l'expression du peuple lorsqu'il est à la tribune ?
Alors, première chose, ce n'est pas uniquement quand il est à la tribune. C'est à chaque instant des différents rôles qu'il a pu occuper, comme effectivement comme député aux États généraux, puis comme et en même temps comme membre des Jacobins, mais aussi dans des circonstances d'interlocution plus proche, quand il discute avec d'Olivier pour finalement porter sa pétition après la répression qui fait suite aux émeutes à Étampes en 1792. Donc il y a différents registres qui conduisent Robespierre effectivement à être une figure. Alors une figure populaire au sens de qui a de la popularité, et populaire au sens effectivement où il peut dire « je suis peuple ». Alors qu'est-ce que ça veut dire pour Robespierre « je suis peuple » ? C'est pas un processus à proprement parler d'identification, mais c'est, si on parle à la manière des philosophes, c'est un processus de subjectivation avec une dimension qui est de l'usage de la raison classique, celle qu'on connaît le plus, mais aussi d'une raison qu'on peut déjà appeler une raison sensible, c'est-à-dire être capable de se mettre à la place du peuple ou à la place des membres du peuple, tout en ayant une conscience de la grande variété des conditions sociales qui composent ce peuple. Donc, ce qui fait que le peuple dont parle Robespierre, c'est à la fois l'universalité des citoyens, et on est dans une question de totalisation, hein, avec l'idée de volonté générale dont il reparle régulièrement dans ses grands rapports, qui vient évidemment de Rousseau, mais pas seulement, qui vient de tout l'esprit contractualiste du XVIIIe siècle, et donc d'une capacité à transformer quelque chose de difficile à saisir, qui est la voix du peuple, en possibilité de fabriquer des lois adéquates aux émotions populaires. Alors en même temps, les émotions populaires, on voit bien qu'il y a un tiraillement avec cette universalité des citoyens, parce que dans l'universalité des citoyens, et même du tiers-État avant qu'on ait l'Assemblée nationale constituante, il y a des variétés sociales et quand même, le courant proche de Robespierre considère qu'il y a une classe immense du pauvre. Et cette classe immense du pauvre, c'est celle pour laquelle il faut travailler sur la question sociale, mais aussi sur la question politique. Et je dirais que la force de Robespierre, c'est de vouloir protéger en même temps le peuple des manipulations qu'il pourrait subir. On vient d'entendre le film de Vajda. Effectivement, Danton est quelqu'un qui est un grand tribun dans l'espace public.
Plus il a d'ailleurs sa statue dans l'espace public
parisien. Voilà, mais
parisien,
c'est une construction de la Troisième République. Voilà. Et dans le film, là, ce qui est montré, c'est comme si on avait d'un côté le grand tribun proche du peuple, de l'autre côté Robespierre dans les cabinets politiques. Mais en fait, c'est archi faux. C'est-à-dire que dès que Robespierre se déplace quelque part, il y a une foule de personnes qui sont là, qui veulent entendre Robespierre, qui discutent, qui montrent à quel point ils sont dans l'amour de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et il y a quelque chose, au contraire, d'une très grande humanité. Et ça me paraît le point important. Et il s'agit donc de protéger le peuple des manipulateurs, de ceux qui veulent le réprimer. Donc il y a différents courants. Il y a les courants qu'on pourrait appeler populistes. Et puis il y a les courants qui sont les courants libéraux au sens économique du terme et qui ne veulent pas penser le droit à l'existence contre la liberté illimitée du commerce des grains. Donc c'est très vaste en fait.
Depuis la parution, par exemple, de la thèse d'Antoine Lilti sur la célébrité, on sait combien, justement, cette question de la célébrité, qui précède la Révolution française avec des figures comme Benjamin Franklin ou comme Voltaire ou Rousseau, qui sont donc des personnages qui sont regardés, aimés, parfois même adulés, a été importante dans ce moment de naissance d'une sorte d'opinion publique marquée par des symboles, par des figures. Est-ce que Robespierre, dans le Paris, d'abord dans Arras, évidemment avant qu'il ne monte à Paris, mais dans le Paris de la Révolution française, correspond à cette figure de la célébrité? C'est-à-dire, est-ce que c'est un personnage, comme vous le décriviez tout à l'heure, Sophie Vaniche, qui a une relation directe avec une partie du peuple de Paris de cette époque-là?
Alors, c'est pas la question du rapport direct qui fait la figure de la célébrité telle que vous les avez évoquées avec Franklin, Voltaire, Rousseau. C'est aussi la possibilité d'investir ces personnages dans une postérité. Et de ce point de vue-là, on voit bien que Robespierre, compte tenu du mythe que vous avez réévoqué en introduction, n'a pas eu le souci de protéger son nom de Robespierre.
On dirait aujourd'hui son image.
Son image, son nom, la manière dont on pourrait fabriquer ce qu'on appelle la communication, puisque c'était aussi un des enjeux d'Antoine Lilti de voir comment il y avait des résonances entre la fabrique d'une célébrité aujourd'hui et la fabrique d'une célébrité au XVIIIe siècle. Et puis surtout, il se méfie de ce rapport aux célébrités en tant qu'il il craint, et en particulier si les personnes sont vivantes, que le peuple refabrique une idole. Et donc, il se méfie des idoles et il va refuser systématiquement, aussi bien pour lui que pour d'autres, qu'il y ait des statues et une possibilité de statuer la figure politique, même si elle est aimée. Et l'amour n'est pas absent. C'est pas un refus de l'amour du peuple pour sa personne, c'est pas un refus de l'influence qu'il peut avoir, c'est un refus de l'absence de pluralisation et le risque d'une religiosité qui s'instaurerait. Et donc il est contre cette religiosité qui s'instaurerait autour du corps du politique vivant.
Même s'il a été piégé d'une certaine manière dans la fête de l'être suprême ou ce
non,
qu'on lui reprochait,
c'était crois que ça c'est vraiment l'élément le plus incompris de la révolution. Oui. Donc piégé, je suis pas sûre que ça soit une affaire de piège, je pense que c'est une affaire de conflit politique tout simplement. C'est-à-dire que il est convaincu que une manière de sortir de la guerre civile latente, hein, ce que Nicole Leroy appelait la stasis, mais aussi de l'affrontement religieux qui, lui, n'est pas latent, puisque les athées font des manifestations publiques en ridiculisant la croyance catholique en particulier. Il est convaincu qu'il faut donc fabriquer une religion civile d'espace commun. Et que cette religion civile, compte tenu de l'état culturel de l'époque, on peut dire, ne peut pas encore se passer d'une position déiste. C'est-à-dire, il n'y a pas le verrou divin qu'on peut complètement enlever. Et en même temps, ce n'est peut-être qu'une hypothèse. En tout cas, il y a toute une série d'énoncés qui permettent de faire varier le curseur sur que pensait Robespierre réellement de Dieu. On n'en saura jamais rien. Ou on en sait beaucoup, mais il faut recouper les choses et voir les contradictions. Toujours est-il que sa question n'est pas là, puisqu'il s'agit d'instaurer la religion des devoirs de l'homme de manière à réparer la société après la violence de la période de la Terreur. Et ça n'est jamais vraiment expliqué. En tout cas, pas sur ce mode-là. Et cette fonction réparatrice des noyaux sociaux qui vont pouvoir s'exprimer autour de chacune des fêtes décadaires, qui sont les fêtes de ces fameux devoirs de l'homme, alors en l'occurrence de l'homme et de la femme, hein, bien sûr, c'est autour des affects sociaux et donc sur la possibilité de faire peuple au sens d'avoir des liens et de ne plus être des individus fragmentés ou des morceaux sociaux fragmentés. Donc il s'agit de réunir l'ensemble de la société autour de cette religion des devoirs de l'homme, et la fête de l'être suprême est la fête qui doit fabriquer l'unité de ces différents affects sociaux. Et de ce point de vue-là, c'est une première tentative tout à fait passionnante et proche du courant britannique de religion civile qui fabrique ce qu'on appellerait aujourd'hui une laïcité, c'est-à-dire la possibilité pour toutes les religions d'exister, pourvu qu'on reconnaisse dans un conformisme l'espace civique commun.
Mais quand je parlais de piégé, c'est parce que ses ennemis, à ce moment-là, ont considéré justement qu'il passait le cap de ce qu'on appellerait au XXe siècle le culte de la personnalité, puisqu'il
C'est les mauvais discours.
Voilà.
Ils savent d'emblée qu'ils sont effectivement maltraités par les adversaires, soit qu'ils soient athées, soit qu'ils soient ceux qui vont organiser le 9 Thermidor à l'Assemblée. Et ils le savent, et il y a une thèse récente de Jolène Bureau sur en fait les souvenirs d'une des compagnes d'un proche de Robespierre, et qui discute avec sa femme et qui dit « Compte tenu de ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai peur que nous soyons perdus. » Parce que la violence symbolique de vouloir transformer cette position, qui est une position en fait de mettre en scène les affects sociaux nécessaires pour la réparation en culte de la personnalité, c'est une manière effectivement de détruire la possibilité d'entendre ce qu'est le projet révolutionnaire à ce moment-là. Et c'est effectivement la tactique permanente des adversaires, c'est-à-dire de ce que on peut appeler avec Jacques Guillaumou la falsification de la langue révolutionnaire. Et que c'est le crime par excellence, c'est-à-dire falsifier la vérité du récit. C'est le crime révolutionnaire pour les révolutionnaires radicaux que sont Robespierre, Saint-Just, Couthon, etc.
Vous nous avez décrit justement ce peuple. Alors, est-ce le peuple de Paris, est-ce le peuple de France? C'est toujours compliqué que de le comprendre. Ce peuple qui écoute la voix de Robespierre, est-ce que il se veut ou il se pense ou pas du tout instituteur du peuple? Est-ce qu'il se pense ami du peuple quand il se pense en tant que orateur à la tribune de la Convention, par exemple? Est-ce que on sait cela ou est-ce qu'on peut le déduire d'une certaine manière de la manière dont il parle, parce qu'il a laissé de très nombreux écrits?
Alors,
Sophie Vanisch,
je vais renverser votre question d'emblée.
Ça ne m'étonne
parce
pas.
Parce que pour moi, c'est pas le peuple qui écoute la voix de Robespierre, c'est Robespierre qui écoute la voix du peuple et qui essaye de la transmuter en loi. Donc c'est plutôt une figure d'intercesseur qui se fait le porte-parole. Et justement, c'est la traductibilité dans le cadre de la loi, c'est-à-dire on part de cette raison sensible populaire qui s'exprime parfois par des émotions, parfois par des textes qui sont les adresses à la Convention, parfois par des députations à la Convention ou auparavant à la Constituante. Et c'est en écoutant cette voix du peuple qu'il prend position plus que l'inverse. Mais cette position, elle est dialectique, c'est-à-dire que écoutant la voix du peuple et la traduisant, alors le peuple commence à s'intéresser effectivement à cette figure de Robespierre. C'est très bien montré dans un autre film, qui est le film de Pierre Scholler, où on voit le personnage principal dans Un peuple et son roi dire qui c'est cet homme,
Robert Pierre,
etc. Et donc il y a bien quelque chose d'un engouement réciproque parce que ils prennent conscience que cet individu très méconnu hein, quand même au début de la Révolution, très faible orateur, donc c'est vraiment par ses arguments et sa manière d'écouter qu'il est brillant. Il a des compétences rhétoriques mais pas oratoires, donc de ce point de vue-là, ça n'aide pas la communication de la célébrité, puisqu'on va pouvoir moquer certaines choses, mais en même temps, ce qui résiste, c'est justement cette capacité à la fois à écouter le peuple et à vouloir le défendre, c'est-à-dire le défendre même contre lui-même. Et à un moment donné, il va pouvoir prendre des positions sur le fait que les grands savent ce qu'il faut faire, mais ne veulent pas le faire. Mais le peuple ne le sait pas, nécessairement, mais est dans l'imaginaire de Robespierre bon. Et donc, quand on lui propose des bonnes choses, il est d'accord, mais il peut se faire berner. Et donc, il est très soucieux
de la démagogie, d'une certaine.
De la démagogie. Voilà. Il ne veut pas que la démagogie l'emporte sur quelque chose qu'on pourrait appeler aujourd'hui la lucidité. Et donc, par exemple, au moment des différents mouvements insurrectionnels, il est toujours inquiet pour le peuple. C'est-à-dire, il est toujours inquiet du sang versé. Et il considère que, par exemple, ses collègues jacobins qui sont les futurs girondins puisqu'ils sont dans le même club hein, quelque chose qu'on a du mal à entendre aujourd'hui mais ils sont au même endroit et donc les débats avec Roland ou avec d'autres figures comme Brissot autour de l'idée que le peuple est là, si quelque chose ne va pas, il pourra entrer en insurrection grâce au droit de résistance à l'oppression. Et Robespierre répond, mais certes, le peuple est là, mais n'est-ce pas cher payé alors qu'on a créé l'Assemblée nationale qui est là pour le protéger par des lois qui seront les bonnes lois et ne pas l'exposer à devoir retremper ses mains dans le sang des tyrans. Et donc, il s'agit de le protéger. Et de ce point de vue-là, c'est une position tout à fait singulière et c'est ce qui conduit le curé rouge d'Olivier d'avoir recours à Robespierre pour faire connaître la pétition de Mauchamp et alentour des Tempes pour expliquer que la répression qui s'est abattue est d'une violence démesurée au regard de ce qui s'est joué avec un maire qui a en fait attisé le feu et conduit effectivement à un meurtre. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant dans cette manière d'être très précis dans l'analyse des choses et d'être capable d'écouter un petit curé de campagne. Et donc non, ce n'est pas que Paris, ce n'est pas non plus que l'Île-de-France. Il y a vraiment un courant de circulation des énoncés et de circulation des journaux et de circulation au sein du Club des Jacobins. C'est une société de correspondance et donc les textes sont envoyés dans toutes les sociétés de correspondance et donc c'est pas une figure parisienne. Voilà, ça c'est une construction des fédéralistes, c'est-à-dire ceux qui sont contre Paris, en province, etc. et qui durent jusqu'à aujourd'hui.
Alors, il y a aussi une révolution qui s'est déroulée avant la Révolution française, c'est la Révolution américaine. Et dans certains de ses discours, Robespierre dit... Est-ce pour retomber sous le joug de l'aristocratie des riches que le peuple a brisé avec vous le joug de l'aristocratie féodale ? qui voudrait de la constitution des États-Unis d'Amérique fondée sur l'aristocratie des richesses. Donc cette idée que il y a une précédente révolution, que ça peut servir de contre-exemple aux révolutionnaires, parce que justement le peuple s'est fait rapter, s'est fait enlever sa capacité d'action par des riches qui ont pris le pouvoir donc aux États-Unis, nouvellement libérés de la tutelle britannique. Est-ce que cela, c'est important justement pour comprendre la vision que peut avoir Robespierre du
oui,
peuple?
Oui, c'est Sophie extrêmement Laniche. Important parce que il considère que ceux qui ont cette capacité à produire le discours législatif et la loi en tant qu'elle est à un moment donné inscrite sur le papier et votée sont donc ceux qu'on appelle les gouvernants. Les gouvernants, c'est pas juste le pouvoir exécutif, c'est aussi le pouvoir législatif hein, quand il parle des gouvernants. Et il dit le propre des gouvernants, c'est d'avoir du mal à renoncer à leurs intérêts individuels. Et que, de fait, on peut interpréter d'une manière tout à fait lutte de classe hein, la Constitution de 1791, avec un suffrage censitaire, avec une valorisation du droit de propriété, avec effectivement ce fameux sens qui ferait que Rousseau n'aurait pas pu participer d'une manière importante aux élections, et donc une aberration qui conduit à considérer qu'effectivement on a remplacé l'aristocratie nobiliaire par l'aristocratie de l'argent. Alors oui, c'est important parce que il faut que il y ait une égalité devant le droit de tous les citoyens, et surtout il y a une conscience très claire que on ne peut se soumettre à la loi que quand on la produit soi-même. Mais la produire soi-même, ça ne veut pas dire être dans une démocratie que l'on dirait complètement directe, hein, mais avoir une capacité à évaluer la qualité de la loi, c'est-à-dire à évaluer si cette loi est une bonne loi ou une mauvaise loi, et que si ce n'est pas une loi en faveur de l'égalité, alors Robespierre va jusqu'à dire que ce n'est pas une loi. Et donc on ne peut pas obéir à des objets qu'on appelle loi et qui n'en sont pas, parce que la loi est faite pour produire cette liberté égalitaire et pour protéger le peuple de ceux qui veulent l'opprimer. Et donc on a quelque chose de très très précis sur ce que doit être une loi. Et de ce point de vue-là, toutes ces interventions à la Constituante sont dans cette direction. Et tout son effort dans la période décriée de la terreur va également dans ce sens, c'est-à-dire produire de l'égalité, de l'équité, de la liberté publique. Au sens où c'est cette liberté publique qui va permettre d'empêcher ceux qui ont propension à vouloir dominer, de dominer.
Demain, nous parlerons d'ailleurs de la terreur avec Marissa Linton, avec justement Robespierre comme incarnation dans la mémoire de cette même terreur. Est-ce que l'on peut justement, en tant que chercheuse et historienne, telle que vous l'êtes, Sophie Vaniche, vous nous avez décrit un Robespierre qui fait des allers-retours avec le peuple et qui évolue par rapport à ce que lui dit le peuple, et le peuple évolue lui-même par rapport à ce que dit Robespierre. Est-ce que l'on peut, évidemment sans psychologiser, comprendre justement cette évolution, ou est-ce qu'il y a une véritable, comment dire, colonne vertébrale de Robespierre tout au long de la période révolutionnaire, y compris en 93 et 94?
Alors moi j'aurais tendance à être du côté de la colonne vertébrale, d'autres vous diront sans doute d'autres choses parce que les interprétations
sont multiples,
peuvent être multiples, mais c'est effectivement cet enjeu de protection et de traduction de la voix du peuple en tant qu'il doit avoir une place fondamentale, et que c'est ça qui fait une révolution, c'est-à-dire les tyrans parlent de sédition, le peuple se plaint de la tyrannie. Quand le peuple ose se plaindre, ce qui arrive lorsque l'excès de l'oppression lui rend son énergie et son indépendance, à ce moment-là, effectivement, vous verrez partout les magistrats opprimer les citoyens.
On voit, et on en a parlé dans l'émission d'hier avec Stephen Kaplan, combien la figure de Robespierre a été centrale et marginalisée d'une certaine manière, tout en étant toujours présente pendant le bicentenaire de la Révolution. Et on a l'impression, à lire beaucoup d'historiennes et d'historiens, vous avez cité certaines thèses récentes, que la figure de Robespierre est revenue alors qu'elle avait été marginalisée pendant ce bicentenaire, mais de façon très différente, Sophie Vaniche. Est-ce qu'on peut comprendre justement ce renouveau de la figure de Robespierre dans l'historiographie contemporaine, cet intérêt nouveau porté à Robespierre, vous le portez depuis longtemps, cet intérêt vous-même, mais du côté de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs.
Alors, il y a des enjeux qui sont des enjeux politiques, c'est-à-dire que quand une figure est marginalisée, ça devient un objet pour ainsi dire...
intéressant.
Oui, en tout cas, qui laisse de la place à l'enquête par rapport au mythe. Après, là, la difficulté, c'est que c'est marginalisé, mais c'est en même temps mythifié. Et c'est le mythe qui nourrit la marginalisation. Du coup, on voit bien que l'enjeu politique, il est immédiatement aussi un enjeu historiographique. Et donc, il y a besoin de se demander si le mythe a des réserves empiriques historiques au sens de l'archive, de l'argumentation, de ce qu'on peut trouver, etc., qui est légitime ou non. Et donc, il s'agit d'argumenter pour savoir si la mythification peut rejoindre l'histoire à la manière dont parle Lévi-Strauss, ou si au contraire il y a besoin de déconstruire le mythe pour pouvoir retrouver l'homme politique, ce traducteur, etc. Et donc il me semble que de ce point de vue-là, il y a tout un effort historiographique qui a été fait pour entrer dans le détail et pouvoir argumenter avec force, avec pas la totalité, mais avec beaucoup, beaucoup de textes de Robespierre. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que à travailler sur les textes de Robespierre, on se rend compte qu'il y a énormément d'argumentations sur des questions qui sont des questions en fait d'actualité. Ne serait-ce que, bon, on est dans une période, plus personne ne peut être innocent là-dessus. On nous explique qu'on fait un rajeunissement des chars Leclerc, donc on prépare la guerre. Mais on prépare la guerre par le réarmement, par donc ce rajeunissement des armes, par un premier conflit qui est le conflit qui ouvre, si on peut dire, le bal des vampires avec l'Ukraine. Et en même temps, on n'a pas, en tant que peuple, voix au chapitre. Alors que bah, moi, j'ai un fils de 25 ans, j'ai pas du tout envie qu'il y ait une guerre et qu'il aille à la guerre. Enfin, je veux dire très clairement. Ça veut pas dire que je suis pas patriote, comme on parlait des femmes patriotes de la Révolution. Ça veut dire que je veux comprendre et que je veux savoir si c'est vraiment indispensable ou pas et que je souhaite pas que ce soit une guerre juste pour nourrir à nouveau la possibilité de maintenir le régime capitaliste néolibéral qui est le nôtre. Donc il y a quelque chose chez Robespierre, par exemple, et je me souviens avoir fait un texte un peu parodique dans Vacarme, où je faisais revenir le fantôme de Robespierre au moment des interventions au Mali. C'était avant les attentats. Et Robespierre expliquait que c'était très mauvais de faire des choses comme ça. On pouvait pas intervenir sans avoir discuté avec l'Assemblée, discuté avec l'ensemble des citoyens, parce que ça ne pouvait pas ne pas avoir de répercussions. Et il expliquait quelles étaient les possibilités. Donc on se rend compte que tant sur le plan constitutionnel, puisque vous m'avez parlé tout à l'heure de constitution, j'ai pas complètement répondu, j'ai répondu par la loi. Il se méfie de la constitution britannique, il se méfie de la constitution américaine, il veut une constitution spécifique protégeant le peuple, et il veut une constitution qui permette au peuple d'avoir les rênes de sa destinée.
Merci beaucoup Sophie Vaniche, c'était trop court de parler de Robespierre, incarnation du peuple avec vous. Demain nous parlerons de l'incarnation de la terreur avant de nous intéresser à l'incarnation de la vertu et pour finir de l'incarnation du monstre. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS et que vous êtes autrice de La longue patience du peuple. Robespierre, incarnation du peuple, deuxième épisode de notre série Avoir raison avec Robespierre, une émission préparée avec Virginie Leduo, réalisée par Laurence Malonda, avec Valentin Bobinet à la technique.